Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à 18h18 dans la province dans la ville province de Kinshasa et 19h18 dans la province de la Tchopo, nous entamons la deuxième partie de notre journal. À Kisangani, les militaires de la force aérienne s'installent de force dans les maisons de l'État occupées par les familles des civils, notamment des agents de la santé et ceux de la RVA. Cette situation est vécue depuis environ une semaine au quartier plateau médical dans la commune Makisso, non loin de l'aéroport de Simimi. Qu'est-ce qui pousse les militaires à occuper les maisons habitées par les civils, comment réagissent les civils et qu'en pensent les autorités politico-militaires? Les détails dans ce mini-dossier signé Dorcas Kanko.
C'est depuis la semaine dernière que les premiers militaires se sont présentés dans ces maisons expliquant qu'elles leur appartiennent. Selon les témoignages recueillis auprès de familles des civils sur place, ils leur ont donné la possibilité soit de quitter les maisons qu'ils occupent, soit de cohabiter avec eux. Dans une de maisons à 4 chambres par exemple, une famille a été contrainte de garder une chambre et céder les 3 autres à 3 autres familles militaires. Les salons et les installations sanitaires sont partagés. Les victimes crient au scandale et exigent l'intervention des autorités compétentes pour les remettre dans leurs droits. Témoignage.
Les militaires de la force aérienne, ils ont été mutés de Goma vers Kisangani, ils n'ont pas de maison. En venant, soi-disant, ils ont eu un ordre de venir nous déloger, eux, militaires, sans documents de la division de l'habitat. Ils viennent, ils entrent directement pour nous déloger, disant que ces maisons-là leur appartiennent. Ils ont délogé une dame, dans la femme du docteur Philippe, et hier, c'était le radiologue. Et c'est à peu près 7 ménages, alors que ce sont des maisons qui appartiennent depuis au patrimoine de la santé. Il y a aussi le maison de la RVA.
Pour la société civile, cette cohabitation est inacceptable. La place des militaires et leurs familles se trouve dans les camps militaires. L'État doit rapidement prendre ses responsabilités et remettre les familles des civils victimes dans leurs droits. Pierre Kibaka, du groupe Justice et Libération.
Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, il y a eu des maisons qui ont été détruites derrière l'hôpital général de Kisangani, au prétexte que c'était un terrain militaire. Mais aujourd'hui, après cette détruction, c'est devenu une forêt, un empire pratiquement de bandits. Donc à partir de 19h-20h, on ne peut pas y passer. Et maintenant, ce qui nous surprend, c'est que ce sont des hauts cadres de la fonction publique, de l'administration publique qui habitent dans ces maisons. Et curieusement, on voit des soldats qui viennent avec leurs bagages y entrer. Et il y a quand même des règles dans ces pays, certaines lois qui existent. Et je pense qu'il est grand temps que le gouvernement s'y penche sérieusement. Si le gouvernement était capable de construire des camps pour les militaires, pour les loger, il faut qu'il trouve une autre formule. Ou bien carrément, il pouvait demander à ceux qui habitaient ces maisons par un préavis légal, leur demander de quitter, comme ce sont des fonctionnaires qui ont été logés par l'État, leur attribuer d'autres maisons, au lieu de mettre toutes ces familles dans des difficultés. Donc nous condamnons ces actes-là et nous pensons qu'il est grand temps d'y remédier, surtout que, comme nous le disons tous les jours, nous ne savons pas si nous pouvons encore parler de ce pays comme un État de droit, ou bien nous rentrons dans la jungle.
Contacter le commandant de l'État-major groupement, qui en fait les responsables de la force aérienne, se refuse à tout commentaire. Il nous a renvoyé auprès du gouverneur de province pour en savoir davantage. Cependant, le directeur du cabinet du gouverneur de province déclare que présentement, toutes les données sont en train d'être réunies pour clarifier l'appartenance de ces maisons que la force aérienne croit être les siennes. Le docteur Dieudonné Mata souligne que l'autorité provinciale aura donc à se prononcer dans les jours qui suivent en connaissance de cause. Kisangani, Dorcas Kanko, Radio Okapi.
L'invité. Notre invité, c'est le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, David Gressley, qui vient de séjourner pendant 3 jours au Sud-Kivu. Il s'est entretenu avec le Conseil provincial de sécurité et il a visité une carrière d'exploitation artisanale des minerais à Mwenga avant de terminer par la visite du camp des ex-combattants rwandais à Walungu. Quel constat a-t-il fait sur place? David Gressley répond au micro d'Emmanuel et la Mejiwa Kabidi.
David Gressley, bonjour.
Bonjour.
Vous avez passé 3 jours au sud que vous. Vous avez visité un site d'exploitation artisanale des minerais. Quel constat vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué là-bas?
C'était difficile de voir comment la population vit là-bas. On voit surtout beaucoup d'enfants qui travaillent sans scolarisation, qui est un vrai problème à mon avis. C'est difficile aussi pour les femmes qui travaillent là-bas. Donc c'est une situation à notre vie qui reste toujours préoccupante. C'est pas acceptable les conditions telles que ça. J'ai demandé à nouveau notre chef de bureau de travailler avec les autorités provinciales de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation qui, comme je disais, n'est pas acceptable. Le fait qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, veut dire qu'ils n'ont pas vraiment un avenir. Et ça risque d'aggraver dans le temps la situation sécuritaire si vous avez toujours des enfants qui deviennent grands sans la capacité nécessaire, les compétences, je veux dire, pour aller chercher des emplois.
Et ensuite, vous êtes allé à Walungu dans le camp de transit des réfugiés rwandais qui sont là depuis 3 ans. Est-ce qu'il y a une suite à leurs problèmes pour leur retour au Rwanda, par exemple?
Vous avez bien dit d'utiliser le mot camp de transit. En décembre 2014, quand on a ouvert ce camp, l'idée était que c'était un camp pour accueillir les combattants et devenir dépendants pour quelques jours, 2 jours, 2 semaines peut-être maximum. Mais à la fin, les leaders de ce groupe, qui est toujours à Walungu, ont décidé de ne pas aller d'abord à Kisangani, qui était prévu, où il y a un camp géré par le gouvernement, et finalement de ne pas rentrer au Rwanda. À mon avis, c'est pas du tout correct. Ils ont une opportunité de rentrer au Rwanda où les enfants là-bas peuvent être scolarisés. Et ce qu'on voit, et ce que vous avez vu aussi, c'est une population qui n'a rien fait pendant 3 ans, et surtout les enfants. Il y a la plupart de la population, y compris des enfants, il y a plus d'une centaine d'enfants, qui n'ont pas bénéficié d'une scolarisation. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut faire un effort pour les enfants, pour les femmes dépendantes aussi, pour qu'ils puissent avoir une vie normale comme tout le monde.
Vous avez parlé avec le gouverneur de province et tous ses collaborateurs, le comité provincial de sécurité. Et quel aperçu vous avez de la situation sécuritaire de la province du Sud Kivu?
En fait, j'étais très content avec les discussions qu'on a eues ensemble et tout le monde est au courant. La situation sécuritaire reste très tendue, très fragile, surtout dans le sud de la province. Nous avons eu une opportunité aussi avec le comité de sécurité de discuter cette situation sécuritaire. Nous avons fait quelques recommandations de notre côté et aussi les autorités provinciales ont fait la même chose pour nous. Et maintenant, on va voir dans quelle mesure on peut mettre en application ces recommandations et ce que nous avons souligné. Et il faut toujours protéger les grandes villes, comme nous avons fait pour la ville d'Uvira. Il faut continuer de protéger les réfugiés, les déplacés dans cette même région. Il faut que les routes restent ouvertes. Il faut que le lac reste tranquille, sans être un moyen pour faire le trafic ou bien d'attaquer les villes comme Uvira, comme on a vu il y a quelques mois. En 2018, on va focaliser sur l'appui aux élections et aussi de renforcer la protection des civils. Ce sont les 2 grands objectifs que j'ai donnés à mes collègues ici. Je crois que nous sommes prêts pour faire face à ces défis en 2018.
David Gressley, merci beaucoup.
Au plaisir.
Eh bien, fidèles auditeurs, Enoch Matonde est au rendez-vous pour le point de l'actualité sportive. Bonsoir Enoch.
Bonsoir Billy Ivan Lutombo. Bonsoir à tous les amis sportifs. 1-0 en faveur de l'ASV Club de Kinshasa cet après-midi devant la formation de Racing Club de Kinshasa. Match comptant pour la 5e journée de ce championnat, bien inscrit par le joueur Mondia Darles à la 78e minute après un coup franc de Oumar Sidibé. Un peu plus tôt, FC MK de Kinshasa et TP Moulungé de Mbandaka se sont neutralisés sur un score nul et vierge de 0 but partout. La compétition se poursuit donc ce samedi avec un match avancé de la 7e journée. La Serengers de Kinshasa jouera dans le score de Matadio le dimanche 10 décembre. Le choc Renaissance de SMP, ça sera au stade des Martyrs, la Pentecôte, pour le match comptant pour la 5e journée. Centre Sud ce vendredi au stade de TP Mazembe. Koufout a battu le Lubumbashi Sport sur le score de 2-1. Le championnat se poursuit également là-bas ce dimanche. Ça sera le choc de cette zone entre Sa Majesté Sangavalindi et le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. En match en retard de la 3e journée prévue au stade de Chikisha, nous sommes à Mbujimayi. Un peu plus tôt à Lubumbashi, Saint-Olo-le-Popo va jouer CS Don Bosco. Et puis c'est donc un match de la 7e journée le même dimanche à Sidibumba, aussi en Pacifique, en match remis de la 4e journée au stade de jeunes de la commune de Katoka, c'est à Kananga. Puis dans la zone Est, on aura les rencontres ce dimanche 10 décembre entre Union Maniema Union face à la formation de CS Makisso au stade de Joseph Kabila, et puis Bukavu Dawa, Dauphin Noir de Goma au stade de la Concorde. encore deux de Kadutu à Bukavu, tandis que le match entre Étoiles du Kivu et Mongano, deux clubs de Bukavu, est donc reporté à lundi. L'organisateur avance la raison de la sécurité. Il faut donc retenir que Étoiles du Kivu vient de la dislocation de la formation de Bukavu Dawa. Par rapport donc à son match du 17 décembre, nous sommes toujours à la ligne à foot. Le FC Montbleu de Bounia a reçu la visite du gouverneur de province de l'Ituri, Abdallah Penembaka, qui est venu motiver les joueurs de cette équipe pour qui représente la province de l'Ituri au championnat national de football. On l'écoute.
Je suis venu réconforter, prouver encore une fois que la province est derrière ses sportifs. Comme vous savez, notre équipe, Football Club Montbleu, est en train de nous honorer au niveau de la ligne à foot. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Pourquoi nous sommes venus? Pour les rassurer que nous sommes de cœur avec eux, qu'ils peuvent continuer à compter sur leur programme.
Il se pose ce problème, l'état de notre stade à Man.
Je viens d'échanger avec le président de l'attente. On a échangé avec lui. Il y a la première possibilité, il y a un partenaire qui va nous financer pour la réhabilitation du stade. Mais en attendant que les partenaires réagissent, la province devra, en attendant les devis que l'attente va nous soumettre, la province va commencer à agir. C'est-à-dire, il est question qu'on renforce d'abord le mur, et voir comment mettre à ce que ceux-là n'auront pas à payer, ne puissent pas accéder facilement au stade.
Ce sont des propos recueillis par notre confrère Alain Mokoko de la radio-télévision Salama de Bounia.
Nous disons merci à Enoch Matondo et place au taux indicatif moyen de la Banque Centrale du Congo pour la journée de ce vendredi 8 décembre 2017. Le dollar s'achète à 1561 francs congolais et se vend à 1643 francs congolais. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci.